Radio Bonheur, il est 19h04. Voici le magazine des déchaînés du football en direct ce soir de 19h jusqu'à 20h30. On va bien sûr parler de Brest, de Lorient, de Guingamp et des clubs amateurs également, des clubs amateurs bretons. Mais avant de parler des clubs de foot qui jouent en Bretagne, nous avons reçu et nous allons rendre hommage à Laurent. Nous avons reçu un mail ce matin nous informant que Laurent, un fidèle de Radio Bonheur, mais surtout un fidèle de l'En Avant Guingamp, nous a quitté tout dernièrement. Nous présentons donc toutes nos condoléances à toute la famille de Laurent Pierre.
Oui, effectivement, on a reçu ce mail aujourd'hui. C'était un fidèle auditeur qui participait aussi parfois à nos discussions, je crois, sur Internet. Donc voilà, on s'associe à la douleur des proches et la famille. On pense très fort à eux dans ces moments douloureux.
Son nom de famille, c'était Laurent
Conan.
Laurent Conan. Voilà, une pensée pour lui et surtout pour sa famille dans ces moments difficiles. On parle foot ce soir sur Radio Bonheur. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique. Bonsoir Pierre. Bonsoir aussi à Sébastien à la technique. Bonsoir ouais. À tous.
Il est dans l'autre régie. On se voit un tout petit peu. Il est dans l'autre régie de l'autre côté de la fenêtre pour toute la partie vidéo. Car cette émission, comme bien souvent dans les déchaînés du football, est retransmise sur la page Facebook des déchaînés du football avec la vidéo, avec les images. En studio pour voir nos journalistes sportifs, pour voir Gaëtan.
Journaliste de sport.
Et pour
sportif.
Voir... Ouais, mais si, aussi un peu quand même. Si, si.
Oui, un peu, on essaye.
Allez, moi, énormément.
Pour voir Pierre et pour voir Gaëtan en direct dans nos studios. Bon, une fois n'est pas coutume, Paris Saint-Germain, enfin, une fois n'est pas coutume, Brest a perdu au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Ça, c'est habituel. Enfin, façon de parler, hein. Brest ne joue pas tous les jours au Parc des Princes, mais en tout cas, Brest a perdu, Lorient a perdu, voilà, et pendant le même temps, Guingamp a gagné ce week-end, dimanche soir, ouais, samedi soir, c'est un
vendredi.
Miracle. Vendredi soir, purée, je vais y arriver, vendredi soir, ça reste exceptionnel. Habituellement, on a un des deux clubs, souvent Brest, en Ligue 1, qui obtient un bon résultat. Souvent, c'est Brest. Ouais. Lorient, c'est un peu plus compliqué. Et puis, souvent, on a une défaite ou un match nul de Guingamp. Et bien, cette fois-ci, c'est un peu le contraire. C'est Guingamp qui gagne et les autres qui pleurent.
Oui, bah en même temps pour Guingamp il était temps, ça faisait 3 mois que c'était pas arrivé.
Oui,
pour
oui.
Brest c'est moins inquiétant, surtout oui. Vu l'adversité. C'est un
et petit vu peu le match
plus...
aussi, parce que c'est quand on oui. voit le score 3-0 pour Paris Saint-Germain face à Brest, on a l'impression que les Brestois ont pris une pilée, mais c'est cher payé en fait. Hein. On aurait oui. eu 1-0 ou 2-1, ça n'aurait pas été...
C'est souvent le cas, les équipes qui jouent contre Paris ces derniers temps, je trouve, Paris arrive à mettre beaucoup de buts on va dire, oui. mais pourtant il y a des équipes qui jouent plutôt bien. Hein, et les scores sont
assez sévères. Paris n'a gagné que 4 de ses 9 derniers matchs, donc ouais. Ils sont plus prenables cette saison et bah, du coup les équipes le savent. Et c'est vrai que même Brest...
Il y avait 1-0 pendant longtemps, hein, ça
ouais.
c'est... Voilà,
jusqu'à Brest, la 81e minute. Ouais.
Brest a craqué dans les 10 dernières minutes, mais autrement on était à 1-0 et pendant tout le match, Brest a failli revenir, enfin a eu plusieurs occasions pour revenir.
Bah, il y a eu une occasion, on va y revenir dans un instant, il y a eu une occasion pour revenir pour mener à 1-0, il y a eu une occasion... des occasions pour revenir à un but partout, malheureusement ça n'a pas basculé du bon côté. On reviendra sur les mots brestois de ce week-end avec Olivier Dalloglio et Gauthier Larsonneur, mais avant on se replonge dans ce PSG-Brest dans quelques instants qui s'est disputé donc samedi au Parc des Princes avec cette défaite brestoise, mais Brest qui a montré le visage que l'on attendait, voilà, une équipe qui n'a pas fermé le jeu, une équipe qui est allée de l'avant et qui eh bien, s'est procuré beaucoup d'occasions. On réécoute ça tout de suite.
Allez, premier coup pour Brest ici à Paris avec Omora qui est dans la surface de réparation, le centre qui arrive sur Romain Febvre, le contrôle, la frappe et l'arrêt de Navas, magnifique, superbe claquette de Navas qui empêche les Brestois de piquer sur la première occasion des Tizèves. C'était la première fois qu'ils franchissaient la ligne médiane. Brestois, il faut tenir maintenant sur coup de pied arrêté du Malia qui le frappe. Oh, ça bute! But! Et Moïse Kean, je crois, qui ouvre le score pour le Paris Saint-Germain.
Et Valenciennes.
Oh, il est bon ce ballon. Oh, il est bon ce ballon pour Romain Fèvre. Il faut la donner. Pas de hors-jeu pour Irvine Cardona. Le face-à-face. Il la pousse trop loin, malheureux. Le contrôle est trop long. Le dernier contrôle face à Navas pour Cardona. C'est pas possible. Tout était parfait. Décalé par Honora sur Pierre-Gabriel, petit ballon pour Romain Fèvre, centre de Fèvre, contré corner, ils sont de plus en plus dangereux les Brestois.
Rennes 2, Lyon 0.
Ça passe dans la surface, ça passe dans la surface pour Fèvre. À côté le slalom de Romain Fèvre dans la surface de réparation, il est venu buter sur un Parisien, il a voulu enrouler vers la lucarne. Louis Duverne qui gagne son duel face à Kin. Le décalage pour Philippe Otto sur le côté de la surface. Philippe Otto avec la frappe. Oh, c'est contré. Devant le but, la frappe de Romain Fèvre encore. Il faut un tacle salvateur. Tout à l'heure, oh là là, Mbappé qui est passé. Icardi qui marque. Aïe, 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 Icardi qui marque. Le deuxième but sur un exploit individuel de Kylian Mbappé qui a servi la soupe là-bas sur le côté gauche. Un crochet, deux crochets, un passement de jambe, un centre en retrait. Et Icardi en excellente position qui vient ajuster l'arsenal qui ne pouvait plus multiplier les exploits. 2 à 0 pour Paris. Le troisième but parisien, ça va trop vite pour Brest sur cette situation. But de Pablo Sarabia qui vient ajuster l'arsenal sur un contre des rouges et bleus. Une frappe sèche du gauche dans l'axe à l'entrée de la surface de réparation. L'arsenal qui a touché ce ballon, mais ce n'était pas suffisant. Brest qui a longtemps été dans le match, qui a longtemps cru un partout et qui l'a lâché un tout petit peu dans cette fin de match. 3-0.
Ouais, c'est bien payé pour les Parisiens. 3-0. Défaite brestoise, les Brestois qui n'ont pas à rougir de leur déplacement.
Après, bon, il y a quand même eu aussi des arrêts de l'arsenal hein, qui a retardé l'échéance, notamment à 1-0. Mais c'est vrai que bon, on a voulu mettre aussi en avant les actions brestoises parce que Brest a eu les possibilités. Le problème, ça a toujours été dans la zone de vérité. Olivier Dalloglio est revenu assez longuement sur ces sujets-là en conférence de presse. C'est vraiment le regret qu'il a eu. Ces actions-là qui arrivaient plutôt bien dans les 20-30 derniers mètres. On repense au face-à-face de Cardona qui pousse trop loin son ballon au moment de conclure. Écoutez l'entraîneur brestois. Toi, ce sujet.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est en fait, c'est au niveau de la finition ou de juste avant la finition. C'est ça. C'est les frappes. C'est la mise en place là pour finaliser quoi. Il manquait cette justesse, cette complicité, connivence un petit peu entre les uns et les autres. Et ce que peut avoir par exemple le PSG, bon, on sent que voilà, ça arrive au bon moment dans le bon tempo. Nous dans le tempo là, on a manqué un peu de lucidité, de force pour finaliser. Ça aurait été bien de voir à un moment donné sur la fin de la première mi-temps, quand on a poussé un peu plus, si on avait pu égaliser, de voir comment on aurait pu réagir. Ou au début de la deuxième mi-temps où on était plutôt sur un temps fort. Si on avait pu en mettre un, ça aurait été intéressant de voir la suite du match. Ouais.
Ouais, Brest qui n'a pas su concrétiser ses occasions à des moments importants de la rencontre.
Bah, c'est surtout un partout parce qu'il y a eu 5 bonnes dernières minutes de la première période et il y a eu un gros quart d'heure de temps fort au début de la seconde. Et c'est vrai qu'on aurait été curieux, comme le dit Dalloglio. Moi personnellement j'aurais été curieux de voir comment Paris allait réagir si Brest égalisait à un but partout. Si Brest vraiment arrivait à pousser Paris dans ses retranchements, parce que Navas en sort une en tout début de rencontre. Il y a eu 2-3 autres interventions, mais il n'a pas eu le match du siècle non plus à faire Navas.
Parce qu'en contre-attaque, les Brestois auraient peut-être eu la balle pour gagner. Hein. C'était un scénario qui était envisageable, qu'on ne saura jamais.
Après, le problème pour eux, c'est qu'ils ont encore craqué sur coup de pied arrêté. Alors, ça faisait longtemps quand même qu'ils ils ne prennent plus de buts régulièrement maintenant sur coup de pied arrêté. Mais voilà, un corner, une tête sur le poteau et ensuite Kin qui...
Oui, bon, c'était au Parc des Princes, c'était Paris. Voilà, il n'y a pas péril dans la demeure. Ça reste pour cette 19e journée et pour ce milieu de championnat un très bon parcours pour les Brestois à mi-chemin.
et même contre les gros, hein, on le disait. Alors ils ont perdu, mais avec fierté contre Marseille 3-2 lors de la deuxième journée.
Début, ouais,
c'était un super match ce soir-là. Il y a eu la défaite à Rennes aussi où ils menaient au score 1-0. Et puis deux victoires contre Monaco, Lille et un nul à Lyon. Lyon qui a lâché très peu de points, hein, sur ces 2-3 derniers mois de Ligue 1. Eh bien Brest est allé en chercher.
Un nul contre Montpellier aussi.
Ouais, un nul contre Montpellier aussi. Et j'ai l'impression que Lyon a été tenu 3 fois en échec. En tout cas, ils n'ont pas perdu beaucoup de points, mais je crois qu'ils ont fait nul contre Lorient, Rennes et Brest, les trois Bretons.
Oui. Ils ont fait nul contre ces trois équipes-là, c'est sûr. Il y a eu d'autres un petit peu matchs peut-être plus compliqués. Il y a eu un nul contre Marseille notamment, mais il n'y en a pas eu énormément, c'est vrai.
Et pour revenir sur ce PSG-Brest, on disait qu'il y a eu des moments clés dans cette rencontre. On a posé la question au gardien Gauthier Larsonneur, quel est le moment qu'il regrettait le plus dans ce 3-0?
Le début de seconde période et aussi, je pense, en début de match ou même en étant en difficulté acculé devant notre but. On a eu 2-3 situations. Il y a Navas qui a fait un ou deux arrêts qui sont assez déterminants. Et nous aussi des ratés. Mais voilà, on a eu un début de match assez compliqué. Ensuite, on a réussi à avoir une meilleure maîtrise du ballon, ce qui nous a permis de leur poser des soucis en jouant notre jeu. Voilà, après, on se doit peut-être d'être un peu plus juste dans la dernière passe. Mais voilà, les semaines passées ont montré qu'on avait des qualités offensives. Ce soir, ça nous a pas souri. Mais voilà, on va se remettre au boulot. Et on voit qu'on a quand même produit un match de qualité ce soir qui nous donne des bonnes bases de travail pour les semaines à venir.
Encore un match consistant, hein, dans la production de Brest. Là, ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'on a vu un meilleur Brest en seconde période. D'habitude, on le voit plutôt comme ça en première. Bon, c'est peut-être l'adversité, le contexte aussi qui faisait ça. Mais ouais, en tout cas,
ce qui est assez surprenant aussi à Brest. Alors, il y avait eu certes le premier match à Nîmes qui avait été manqué, mais sinon, il n'y a pas eu de trou d'air plus que ça dans la saison. Il y a eu le match contre Strasbourg.
À Nantes, non?
À Nantes, oui. Bah, c'était deux matchs d'ailleurs qui étaient collés ensemble, ouais. Mais c'est le seul moment finalement, hormis le match du tout début.
Puis la défaite à Rennes. Il n'y a pas eu 3 défaites de suite, puis
ouais,
la victoire.
Oui, il y avait eu la défaite à Rennes, mais hormis le tout début, le match contre Nîmes et ce tout petit passage là, finalement, il n'y a pas eu de trou d'air. Alors que souvent, ce genre d'équipe, Brest, Metz, enfin ces équipes amenées à jouer le maintien, souvent c'est un petit peu en dents de scie. Il y a des vagues et c'est beaucoup moins le cas, je trouve.
Il y a une raison simple, c'est qu'ils arrivent à gagner quasiment tout le temps à domicile.
Ouais.
Parce que le parcours à l'extérieur, alors même s'il y a eu des bons matchs, c'est quand même 7 défaites en 10 déplacements pour Brest. Mais c'est vrai qu'on reste sur la victoire solide à Metz, le super nul à Lyon.
Ouais.
Mais voilà, on a quand même à peu près, quand on regarde cette première partie de saison.
Mais ils arrivent tout de suite à reprendre le dessus. Il n'y a pas de trou d'air qui dure finalement.
Je crois qu'ils sont 4e ou 5e de Ligue 1 à domicile et ils sont 18e à l'extérieur.
Ouais, ouais.
Donc c'est toujours un petit peu comme l'année dernière. Et d'ailleurs, je me souviens, on a posé la question à Olivier Dalloglio. Non, on n'était plus à l'antenne. C'était mercredi après Nice. On lui dit, mais comment ça se fait que vous êtes autant performant que l'année dernière à domicile alors qu'il n'y a plus le public? Et il dit, c'est pas forcément quelque chose qui s'explique. C'est peut-être qu'il y a plus de repères. Ils font souvent une séance à Francis Leblay avant la rencontre qui permet peut-être de mieux se coordonner sur le terrain. Mais voilà, c'était le contexte brestois de l'année dernière. Très bon parcours à domicile, des difficultés à l'extérieur. Ça continue un petit peu en ce moment, même s'il faut dire qu'ils sont allés à Lyon, ils sont allés à Paris. Enfin voilà, il n'y a pas eu que des matchs très très simples. Ils sont allés à Rennes aussi, les Brestois, dans cette première partie de saison. On revient une dernière fois sur ce PSG-Brest avant de dresser un petit peu le bilan à mi-parcours, même si on l'a fait il n'y a pas si longtemps du côté de Brest. Sur ce coup tenté par Olivier Dalloglio en fin de rencontre, qui a fait sortir notamment sa paire Lannes et Belkebla pour un coaching ultra offensif. Il avait fait entrer des Mounier, Charbonnier, Ledouaron. Il y avait beaucoup, beaucoup d'attaquants sur le terrain. C'était un choix voulu. Le problème, c'est que quasiment 2 minutes après le dernier changement, la sortie de Belkebla, je crois, pour Ledouaron, eh bien Paris a marqué le deuxième, puis le troisième but tout de suite. Du coup, on n'a pas pu voir vraiment ce qu'allait donner ce coaching audacieux. Ça a été également l'un des regrets d'Olivier Dalloglio.
Ouais, effectivement, ça n'a pas été ce qu'on attendait. Ouais. Ouais, quand ils ont marqué effectivement trop tôt, ça on peut pas trop choisir, mais c'est vrai que on aurait pu essayer d'avoir des. Penser qu'on pouvait avoir des coups de pied arrêtés, par exemple. On sait que bon, Steve dans les airs, ça peut être intéressant. Il y avait Charbonnier qui rentre et qui pouvait amener un peu plus une touche technique dans juste voilà, derrière les 6 adverses. On n'a pas eu le temps de le voir, on a été un peu coupé dans notre élan, effectivement. Et ça pas. Mais j'espérais mieux quand même. J'espérais un petit peu plus de piquant, un peu des joueurs qui rentrent, tout en sachant que c'est compliqué de se mettre rapidement dans le rythme. Mais les Parisiens nous ont coupé l'herbe sous le pied là-dessus, ouais, c'est vrai.
C'est ça, c'est ce qui freine tout de suite Brest. L'audace, on va dire, d'Olivier Dalloglio a tout de suite été mise à mal avec ce deuxième but parisien qui est arrivé dans la
foulée. C'est pas bien tombé, quoi.
Ouais. Avant, finalement, que les entrants aient le temps de s'exprimer, ça vient un peu casser tous les plans.
Bon, après, je crois qu'il y a eu 4 changements de fait déjà à ce moment-là, mais là, c'était vraiment le dernier où vraiment il sort Belkebla au milieu. Je crois que c'est le Doiron qui rentre en dernier. Là, c'était un 4-2-4 et encore dans les deux du milieu, il y avait Fèvre. Donc, c'était vraiment l'offensive à tout va. Mais voilà, il tente. Ça fonctionne très souvent, donc c'est absolument pas un reproche contre Olivier Dalloglio. Une petite page de réclame, la première dans ce magazine, et on dresse un petit peu le bilan de Brest dans cette première partie de saison. Et on se dirigera malheureusement vers les mots l'orienter ensuite.
Attention, ce spot radio n'a absolument aucun sens.
Le Skoda Kamiq existe désormais en version Young Edition suréquipée avec caméra de recul, climatisation et démarrage sans clé. Et parce qu'on a ajouté tous ces équipements, on a baissé son prix.
Ça n'a aucun sens, mais c'est tant mieux pour vous. Le Skoda Kamiq Young Edition n'est qu'à 19 500 euros. Essayez-le lors des portes ouvertes du 15 au 17 janvier.
Valable pour un Skoda Kamiq Young Edition 1 litre TSI 95 chevaux, boîte manuelle dans la limite des stocks disponibles. Offre à particulier, plus d'infos sur skoda.fr.
SFR présente la journée de cours idéale de Marie.
Déjà, c'est commencé à 10h. C'est la 5G pour regarder les clips en HD dans le bus. Et ça apprend en arrivant que l'examen est reporté.
Marie, on a une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Jusqu'au 18 janvier, pendant le shopping d'hiver de SFR, profitez du nouveau forfait 5G avec 80 gigas à 15€ par mois pendant un an, puis 30€ par mois. Appelez le 1090. Service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservées aux nouvelles souscriptions. Prix client box sans mobile, engagement 12 mois. Réseau 5G disponible dans les communes couvertes avec forfait mobile compatible 5G.
Une disponibilité, une écoute, une réactivité et une qualité pas comme les autres. Cuisine Plus a été élu service client de l'année 2021. Alors, n'attendez pas et rendez-vous en magasin ou sur cuisineplus.fr. Cuisine Plus, sortez des standards. Catégorie aménagement de l'habitat, étude BVA, visée OCI, plus d'infos sur scda.fr.
Toyota. 3, 4, 5, 6.
Oh non, rue de Belleville.
J'achète. Tiens, 70.
Ah non, t'es gentil, mais ça coûte 100.
Oui, mais je suis en Toyota Aygo.
Et alors?
Donc j'ai 30% de remise.
Quoi ?
Oui, 30%.
Pendant les Lucky Days Toyota et à l'occasion des 85 ans de Monopoly, profitez d'une remise immédiate de 30% sur la Toyota Aygo.
Toyota.
Offre réservée aux particuliers non cumulables dans le réseau participant sur une sélection de véhicules en stock identifié. Conditions sur toyota.fr. Porte ouverte ce week-end. Lucky Days, jour de chance.
Bonjour Chantal.
Encore vous, Franck Ferrand.
Eh oui, en faisant le tour de la France cet été, j'ai vu partout des vérandas et des pergolas à Kéna. J'ai fait des recherches.
Oh,
et j'ai vu qu'Akena s'adaptait à tous les habitats longères basques contemporaines, vous le saviez ?
Évidemment, je le savais. Je faisais déjà les pubs à Akena, vous n'étiez pas né.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Tu lui donnes quel âge à Mamini ?
Je sais pas, 2 ans ?
Elle en a 6, mais c'est que j'en prends soin, moi.
Avec le réseau Mini-Service, profitez de toute l'expertise des techniciens pour l'entretien de votre Mini et préservez-la pour longtemps. Votre Mini a plus de 6 ans ? Avec l'offre Avantage 6+, bénéficiez toute l'année de tarifs préférentiels sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 15 février, profitez de 50€ de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Mini-Service, des experts dédiés à votre Mini. Mini. Voir conditions et réseaux participants sur mini.fr.
Leclerc.
Bah dis donc, comment tu fais tes courses, toi ? C'est bien empilé, c'est carré, mathématique.
Ah, je suis juste organisée.
Bien sûr. Et tu prends des yaourts par pack de 16 ?
C'est plus économique. Là, du 12 au 23 janvier, le pack d'Activia de Danone de 16 x 125 grammes, variété au choix, est à 4,09€. Avec 34% de tickets Leclerc, ça fait 2,05€ le kilo.
Ah oui, mathématique.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Le retour du Trophée des Champions sur Canal+, c'est déjà une bonne nouvelle pour 2021. Retrouvez le classique du football français avec le Paris SG face à l'OM pour le premier trophée de l'année. Le Trophée des Champions Paris SG-OM, c'est le 13 janvier à 21h en direct sur Canal+.
Appelez vite le 3910, service gratuit plus prix appel.
Chez Poltron et Sofa, quand il s'agit des prix bas, on n'a pas froid aux yeux, même en hiver. La preuve, avec l'opération coup de froid sur les prix. Jusqu'à samedi, tous nos canapés faits main en Italie sont à moins 50%. Alors, rendez-vous vite en magasin. Poltron et Sofa, Authentica Qualità. Et voilà, qualité authentique, vérifiez conditions en magasin.
Bouygues Télécom. David, Daniela et leurs enfants déménagent de Dieppe à Dijon. Et à cette occasion, ils désirent doter leur nouveau domicile de la fibre, sans trop dépenser. Eh bien, David et Daniela, nul doute, cette offre vous est dédiée.
En ce moment, chez Bouygues Télécom, la fibre est à 14,99€ par mois pendant un an, puis 28,99€ par mois avec Bbox Fit. Et oui, la fibre à 14,99€ seulement. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois.
Ah, les conditions. Quand petit, vous pouviez aller jouer à condition de ranger votre chambre. Quand on vous disait qu'on réussit dans la vie à condition de bien travailler à l'école. Ou encore, quand une offre incroyable est valable à condition de lire les mentions légales. Là, en tout petit. Non, en fait, les conditions, c'est mieux quand il n'y en a pas.
Chez Nissan, oubliez les conditions. En janvier, pendant le mois sans conditions, tout le monde peut profiter d'offres exceptionnelles, sans apport et sans aucune condition. Rendez-vous vite en concession.
Nissan.
Offre valable sur véhicules particuliers neufs. Détail nissan.fr.
C'est le magazine des déchaînés du football. Merci d'écouter Radio Bonheur. 19h24. On parle encore pendant quelques minutes de ce Paris Saint-Germain. Brest, on le rappelle, défaite. Lourde défaite des Brestois, pas tout à fait méritée. 3-0.
Oui, les Brestois donc qui terminent cette phase aller à la 11e place, je crois, de Ligue 1.
Oui, tout à fait.
À égalité avec Bordeaux, me semble-t-il.
Mais
notamment,
Bordeaux, 10e.
8 victoires, 2 nuls, 9 défaites. C'est évidemment un excellent bilan comptable pour Brest. Et puis surtout, Gaëtan, il y a le bilan comptable. Mais toujours, quand on fait l'analyse des prestations brestoises, il y a aussi l'émotion que cette équipe procure à ses suiveurs et ses supporters.
Oui, parce qu'on s'est régalé sur quasi chacun des matchs de Brest, hein. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main, les quelques matchs qui ont été manqués.
Allez, Nîmes,
Nantes
Strasbourg,
Strasbourg, voilà. Ouais, ah oui, Rennes, on peut le mettre entre parenthèses, peut-être. Rennes entre parenthèses, parce que voilà. Mais le reste.
Très peu, oui, parce que même hier, face aux Parisiens, on a vu un stade brestois qui bouge. Hein,
moi, j'ai reçu pendant le match, j'ai reçu des messages de gens qui regardent quasiment jamais Brest et qui m'ont dit: mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? J'ai dit: c'est Brest. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous parle de Brest le temps? Ouais. Parce que vraiment, il y a une idée de jeu, il y a une cohérence.
Oui, puis cette idée de jeu-là, elle est respectée, peu importe l'adversaire, que ce soit le dernier, le premier. Il garde cette idée de jeu là, Olivier Dalloglio. Les joueurs aussi, on a vu qu'ils s'appuyaient sur un effectif qui était assez mobile, parce que finalement, il est parti avec une équipe de départ qui a pas mal bougé depuis. Il y a eu les recrues Mounier et Fèvre qui se sont intercalés dans ce 11 de départ. Cardona qui est bien revenu, Honora aussi.
Et Lannes au milieu
qui n'était pas du tout dans les titulaires parce qu'il avait d'ailleurs été un petit peu blessé en début de saison. C'est une équipe qui n'avait pas forcément son 11 de départ dès le début de l'exercice, mais qui a quand même pris des points tout de suite et qui, plus ça va, plus elle tend à performer avec en trouvant les ajustements qui conviennent suivant les adversaires, suivant les matchs, suivant les tournures que prennent certains matchs. Il y a toujours un ressort dans cette équipe de Brest trouvé par Olivier Dalloglio.
Et puis c'est plaisant, c'est une équipe plaisante à voir jouer, parce qu'on a des équipes qui réussissent à prendre des points, mais on s'ennuie beaucoup. Là, c'est pas le cas. Même quand Brest perd, on a souvent plaisir à voir cette équipe de Brest jouer.
Le seul bémol, c'est les buts encaissés.
Ah, la défense. C'est la contrepartie un peu logique.
34.
34, ouais, ça fait presque 2 de par match. Hein.
Oui. Ouais, c'est énorme.
C'est énorme. Hein.
C'est énorme.
Je crois qu'il n'y a que Lorient et Nîmes qui font pire. Oui, peut-être Dijon.
Quand on voit le classement, les résultats globaux de Brest, quand on voit la défense, on se dit: oh là là, c'est une catastrophe à Brest.
Mais c'est compensé par l'attaque.
Mais voilà, c'est un style de jeu différent. C'est, on prend des risques, donc on assume le fait de prendre aussi peut-être plus de buts que d'autres équipes.
Ouais, ce qui est fou, c'est que Montpellier est juste devant en termes de buts encaissés. Montpellier, ils ont encaissé 32 buts.
Alors que les autres saisons, ils ne prenaient pas beaucoup de buts, mais cette année, c'est énorme aussi.
Il a changé son fusil d'épaule.
C'est étonnant. Question justement sur le bilan brestois posé à Olivier Dalloglio.
Oui, normalement. Olivier Dalloglio, micro de Radio Bonheur.
Oh, le bilan est plutôt positif. Déjà en termes de points, c'est bien par rapport à notre objectif. Si on fait la même chose sur les matchs retour, ça sera très satisfaisant. Après, en termes de progression, on y est aussi par rapport au début de saison. On voit que les joueurs arrivent à avoir un peu plus de complicité. On arrive à être très efficace à la maison. Donc il y a beaucoup de points positifs, mais en même temps il reste beaucoup d'objectifs à atteindre encore. On parlait de technique, on parlait de complicité, et ça prend du temps. Mais on a encore du taf, c'est ce qui est intéressant. Je pense que ça peut être une bonne saison pour nous.
Ah, il y a une marge de progression encore.
Absolument rien de fait.
Ouais, il y a encore une marge de progression dans cette équipe de Brest.
Bah oui, parce qu'on vient de le dire, ils prennent trop de buts, ils finissent pas assez bien les actions. Donc voilà, il y a encore un petit gap à franchir. Dernière question de cette partie sur Brest dans ce magazine. Vous en souvenez, je crois que c'était il y a deux semaines où on a fait un petit peu le bilan. Non, c'était la semaine dernière. On a fait le bilan des matchs de Brest. On avait fait le top 3 des matchs de Brest sur cette première partie de saison. Oui. Il y avait Lille et Lyon qui ont été loin devant. Et puis chacun de nous, avec Yann aussi de Brest On Air, on avait notre troisième match capital.
Tous différents.
Eh bien, on a posé la question à Gauthier Larsonneur. On lui a dit quel est le match que tu retiens, j'étais persuadé qu'il allait me dire Lille. Eh bien non, il donne un match qu'on n'avait même pas cité dans notre liste. Écoutez-le.
Je pense peut-être le match contre Reims, parce qu'il montre que cette équipe-là a progressé, a du caractère. Voilà, on mène 1-0, on se fait égaliser 1-1. Et on va chercher des choses, et je pense qu'en début de saison, pas forcément, on aurait été chercher ces trois points-là à domicile, qui nous ont fait, c'est une certitude, basculer dans de bonnes conditions, parce que Reims était un concurrent direct aujourd'hui pour le maintien. Et qui nous a permis de les mettre à quelques points derrière nous. Donc ce match-là montre qu'on peut être solide défensivement aussi et offensivement être très intéressant.
Là, pour le moral de l'équipe, alors peut-être que pour nous, simples spectateurs, ça nous a semblé moins important cette victoire. Mais
c'était pas le plus spectaculaire.
C'était pas le meilleur. Mais bah, psychologiquement, visiblement, ça a aidé cette équipe de Brest à rester dans le coup.
Et ce qui est très intéressant dans le parcours de Brest, on a le calendrier sous les yeux avec Gaëtan, c'est qu'ils ont toujours gagné le match pour ne pas s'enfoncer dans une crise de résultats, parce qu'il y a eu la victoire à Dijon après deux défaites sur les deux premières journées, il y a eu la victoire contre Lille que personne n'attendait, Lille qui était invaincue après trois défaites de suite, et puis il y a eu la victoire contre Nice cette semaine après trois matchs en victoire, même s'il y avait eu deux beaux matchs nuls contre Brest et Montpellier, il y a eu le match à Lens qui n'avait pas du tout plu à Dalloglio, c'était vraiment voilà, le match pour repartir. Eh bien, c'est ce qui a été fait. On attend avec impatience encore le Brest-Rennes qui arrive dimanche
derby,
à 13h.
Un derby à vivre en direct sur Radio Bonheur. Radio Bonheur, il est 19h30, 31 minutes. On a fini pour Brest de parler des Brestois. On enchaîne avec Lorient. C'est moins rigolo.
C'est beaucoup
même
plus dur.
Si la défaite est moins lourde. Hein, défaite à Bordeaux, 2-1. Gaëtan, dans ce match que nous avons vécu en direct aussi sur les ondes de Radio Bonheur, on a cru que Lorient allait pouvoir peut-être arracher le point du nul. Finalement,
ouais,
ça s'est soldé par un échec.
À un partout, il y a eu une énorme occasion d'ailleurs de prendre l'avantage, et ben pour en savoir plus, on va se replonger dans ce Bordeaux-Lorient. C'était samedi soir sur Radio Bonheur.
Première occasion déjà pour les Brestois.
Oh, la frappe ici de l'Orienté à Bordeaux, repoussée par Costil à l'entrée des 16m50. Et là, un deuxième corner pour Bordeaux, de Préville qui le frappe. Il y avait du monde encore dans la surface. Wangela notamment, la frappe encore et but. L'ouverture du score sur la première frappe des Girondins de Bordeaux. C'est Rémi Houdin qui trompe Mathieu Dreyer. Il l'aura tenu 12 minutes, Mathieu Dreyer, pour sa première titularisation. Bordeaux ouvre déjà le score face à Lorient. Le but de l'ancien Rémois, Rémi Houdin. Son troisième cette saison. 1-0 pour Bordeaux face à Lorient.
Gaëtan, c'est le...
Attention à ce ballon, Mofi dans la surface, qui va buter, but ! L'égalisation de Mofi, son troisième but en trois matchs pour l'attaquant nigérian, et Lorient qui revient dans cette partie à un but partout. Il avait marqué à Nice avant Noël, il a marqué contre Monaco cette semaine, il marque ce soir à Bordeaux. Terem Mofi, alors qu'il n'y avait pas de réaction depuis le but, et bien la première est la bonne pour Lorient qui égalise grâce à Mofi un but partout.
35 mètres, il y a la peine de l'orienter. La frappe de l'effet, elle est contrée, Mofi. Deuxième balle pour Mofi, contrée dans la surface par Sabali. Oh, une occasion en or là pour le Football Club de Lorient avec cette balle. Oh, le poteau! Le poteau pour Mofi et les Merlus. Une frappe presque anodine de mon conduit, contrée dans la surface de réparation. Et Mofi qui hérite d'un ballon au point de pénalty, mais il est dos au but et serré de près par deux défenseurs bordelais, par Baïs et Koscielny. Qu'est-ce qu'il tente, Mofi? Une talonnade tout simplement qui s'écrase sur le poteau de Benoît Costil. Énorme occasion encore pour les Merlus qui décidément sont beaucoup mieux depuis qu'ils ont égalisé. Les Girondins à l'attaque avec la frappe dans la surface. Oh, dévié contre son camp, but de Bordeaux. C'est dévié contre son camp par Gravillon et Bordeaux qui reprend l'avantage à la 43e minute de jeu. Un ballon que Dreyer semblait pouvoir capter sur ce centre. Doudin sur cette frappe. Doudin, mais Gravillon est passé par là et l'a dévié contre son camp dans les 6 mètres. 2-1 pour Bordeaux qui reprend l'avantage devant Lorient. À Depréville qui est parti à la limite du hors-jeu sur le côté gauche. Il va pouvoir provoquer Morel dans la surface. Il a éliminé la frappe. L'arrêt derrière la parade énorme d'un défenseur de Lorient. C'est qui s'est jeté là? C'est le Goff. Alors que le but était ouvert, vide pour le triplé d'Oudin. Et il s'est jeté. Il a peut-être sauvé les meubles ce soir, Vincent Le Goff, sur ce tacle là. Morel pour le Goff côté gauche, allez, il faut s'appliquer là vers le Goff qui va frapper dans le petit filet. Longue ouverture d'Abergel vers l'Orienté, il s'est manqué sa balise, ça passe donc pour l'Orienté. Allez, il peut percer là dans la surface de réparation, la frappe de l'Orienté, pied gauche, elle est captée. 13e défaite du FC Lorient dans cette saison. Et Lorient qui restera donc bloqué dans la zone rouge pour terminer cette phase aller. Défaite 2-1.
19e, hein, les Merlus avec 12 points, égalité avec Nîmes. Les deux derniers, Lorient et Nîmes, on a Dijon à 14 points et Nantes au-dessus, un cran au-dessus quand même avec 17 points.
Exactement,
c'est vraiment dommage. Hein, c'est l'âge Koumoun, hein, c'est ce que j'ai dit pendant le match pour les Merlus.
Oui,
ils ont failli prendre l'avantage.
C'est ça.
Et puis c'est un but contre son camp. Enfin,
il a accordé à Oudin, mais.
Ouais, bon, mais s'il n'y avait pas eu cette déviation, je pense que le gardien arrêtait. C'est vraiment pas de chance.
Non, c'est pas de chance parce qu'il y a. Alors c'est ce qu'on disait aussi en conférence de presse, notamment à Mathieu Dreyer. Ils ont souvent l'opportunité d'ouvrir le score, les Merlus. Ils ne le font que très rarement parce que c'est la 14e fois qu'ils ont concédé le premier but dans un match ce week-end. Ils ont eu l'opportunité de prendre l'avantage avec ce poteau de Mofi, mais il y a toujours quelque chose qui les empêche vraiment de basculer du bon côté. Alors il y a aussi des erreurs parce qu'il y a beaucoup de largesse défensive du côté de Lorient, surtout depuis plusieurs, 3, 4, 5 matchs. Mais il manque aussi parfois ce coup de réussite, là la preuve avec le poteau.
Ah ouais,
poteau.
Ce qui est fou, je me faisais la réflexion pendant le duplex l'autre jour, c'est que quand Bordeaux a marqué en premier, ça m'a fait penser à l'année dernière où Lorient marquait toujours sur sa première occasion. Oui. Et là on a l'impression que Lorient ne rentre pas forcément très mal dans ses matchs, mais que son adversaire marque toujours sur sa première occasion. Je repense à Monaco. Rennes a quasiment marqué aussi sur sa première occasion au mois de décembre.
Nice,
c'est invraisemblable.
Ouais, ça arrive beaucoup trop souvent. Et ce qui fait que Lorient court quasi tout le temps après le score. Pourtant, là, au terme d'un match où Lorient s'est montré à la hauteur de son adversaire, on écoute d'ailleurs l'analyse globale de Christophe Pélissier.
Quand on voit la mi-temps qu'on fait. Être mené 2-1 alors que je crois qu'ils ont frappé que deux fois au but, et même si on peut compter le premier but sur un corner comme une frappe au but, et nous on a des situations, on a un poteau comme je dis, on arrive à revenir au score et à maîtriser cette équipe de Bordeaux. On a maîtrisé le ballon, on les a mis en difficulté, on a pris de la vitesse. Voilà, malheureusement comme je dis, le football on retient souvent ceux qui gagnent. Ce soir j'ai vu une équipe de Lorient qui était au niveau de celle de Bordeaux, mais c'est Bordeaux qui a gagné.
Bah oui, c'est ce qui arrive souvent, malheureusement, avec Lorient. Plusieurs fois, hein, Lorient depuis le début de cette saison. Plusieurs fois, Lorient manque le coche à peu de choses.
Ouais, c'était le cas à Nice juste avant Noël où Lorient méritait la victoire, mais il y avait eu des largesses défensives, donc deux buts de retard assez rapidement. Et derrière, il avait fallu courir après le score. Ils étaient revenus à 2-2. Là, ils n'ont pas réussi à revenir à 2-2. Encore deux buts encaissés, ça fait beaucoup. Ça fait 38 en 19 matchs. Là, on est pile à deux par match de moyenne. Pourtant, il y avait eu un choix fort de fait sur ce match, puisque Paul Nardi, l'habituel gardien titulaire depuis son arrivée à Lorient il y a un an et demi, eh bien avait été laissé sur le banc, remplacé par Mathieu Dreyer, qui lui est arrivé cet été en provenance d'Amiens, où il avait connu d'ailleurs Christophe Pélissier il y a deux ans. Un choix fort qu'explique d'ailleurs Christophe Pélissier.
Le fait qu'on joue deux matchs en trois jours, Polo on avait pris 5 buts mardi, c'était l'occasion aussi de le faire souffler un petit peu mentalement. Mais par rapport à ça, il n'y a pas de changement de statut. C'était aujourd'hui ce choix-là.
Donc Polo reviendra le week-end prochain.
Ben oui, ouais. Alors c'est vrai que j'ai pas mis la question suivante. Je lui ai demandé justement si Paul Nardi allait retrouver sa place. Il a dit on verra dans la semaine, quoi. Voilà, il a pas donné plus d'indications. Il a quand même laissé entendre que Paul Nardi devrait retrouver sa place, mais bon, il peut se passer beaucoup de choses sur une semaine d'entraînement dans cette situation-là quand on cherche la solution.
Ben d'une part, on peut pas dire que Paul Nardi soit le fautif numéro un des mauvais résultats de Lorient, en tout cas soit ultra impliqué dans les mauvais résultats. Je prends l'exemple à Guingamp de Larsen, qui a été très vite impliqué des buts et il a fait perdre des points à son équipe. J'ai pas l'impression que Nardi ait fait perdre énormément de points à Lorient
cette
saison.
Non, mais il n'en a pas fait gagner non plus.
C'est ça le problème. Et on peut pas dire que l'intérim de Dreyer eût été...
Non, ça n'a pas soulevé non plus un quelconque levier du côté de Lorient. Il a pas eu énormément de boulot à faire derrière, mais il y a eu ces deux buts encaissés. Alors il a évité, avec l'aide de Le Goff d'ailleurs, le 3-1 sur une balle de contre en deuxième mi-temps. Mais il n'empêche qu'il y a deux buts encore encaissés, dont un sur coup de pied arrêté. Alors là, les défenseurs changent, le gardien change, les équipes changent. Et ce problème persiste. Ça fait 4 buts encaissés sur les deux derniers matchs. 3 contre Monaco et 1 contre Bordeaux.
C'est beaucoup, ouais.
Ça fait beaucoup trop. Alors même si là, vous allez le voir, vous allez l'entendre, surtout Christophe Pélissier, qui explique que bon, sa défense est peut-être un peu moins coupable que face à Monaco.
Je crois que là, sur celui-là, c'est beaucoup de malchance. C'est un contre, ça revient malheureusement pour nous dans les pieds d'Oudin. Après, on n'a pas été mis en danger. Déjà, ils n'ont pas eu trop de coups de pied arrêtés et trop de corners, mais on n'a pas été en danger là-dessus. Donc voilà, il faut arriver à être fort, comme je dis aux joueurs. Il faut être fort dans ces moments-là où on a l'impression que tout tourne contre nous. Mais continuer à avoir cette volonté de jouer, de se procurer des occasions, comme ça a été le cas ce soir, même si on n'est pas récompensé.
Il y a le feu depuis un petit moment quand même dans cette équipe de Lorient. Ça fait un moment qu'on le dit, ça fait des mois que ça continue.
Bah depuis le début de la saison, quasiment.
Oui, quasiment depuis le début de la saison, même si Lorient n'était pas dans le rouge tout de suite.
Non,
parce qu'il y a eu le premier match victorieux contre Strasbourg. Il y a eu une victoire ensuite quelques matchs plus tard. C'est pas venu tout de suite, c'est pas venu dès le début du championnat, mais on l'a senti venir quand même.
Parce qu'il n'y a jamais eu de série en fait positive. Il y a toujours eu une victoire ou un nul, puis une défaite dans la foulée, jamais deux fois.
Il n'y a jamais eu deux matchs sans défaite.
Non, jamais. C'est victoire, défaite ou nulle défaite, mais jamais de résultats positifs à se suivre. Donc c'est évidemment beaucoup trop compliqué et, de surnager dans un championnat.
Les victoires deviennent de plus en plus rares pour Lorient.
Il n'y en a eu que 3. Ouais.
Ça se complique pour Lorient. Alors, match hyper important le week-end prochain, dimanche prochain à 15h. Les deux matchs qui viennent sont hyper importants puisque, on le rappelle, Lorient est 19e avec 12 points. Derrière, il y a Nîmes à égalité avec 12 points. Et juste au-dessus, on a Dijon avec 14 points. Eh bien, Lorient jouera ces deux adversaires-là dans les deux prochaines rencontres avec d'abord la réception de Dijon. C'est-à-dire que si Lorient gagne ce match contre Dijon, Lorient peut ne plus être en zone rouge sur un match.
On peut se refaire une santé, on va dire, avec ces deux matchs-là. Mais d'ailleurs, juste avant l'écran publicitaire, on va tout de suite, Dominique, écouter le son numéro 12 où Mathieu Dreyer revient sur ces deux matchs qu'il nomme de finale contre Dijon et Lille.
C'est des finales, on va pas se mentir. De toute façon, il faut prendre des points, quoi qu'il arrive, dans notre situation. Et c'est des concurrents directs. Donc quand on bat les concurrents directs, on fait tout de suite des bons et ça fait tout de suite du bien au mental. Donc à nous de bien préparer ces deux matchs pour ensuite pouvoir avoir un peu plus d'air.
Hyper important, évidemment, les deux prochains matchs. Il faudra gagner au moins un des deux. Là.
Bah, il faut minimum 4 points, de toute façon, bah, une victoire nulle ou deux victoires.
Oui, voilà.
Là, en tout cas, c'est là-dessus que l'Orient
pourra jouer. Là, s'il y a deux défaites, c'est, là, je pense que le moral sera atteint. Et puis, mathématiquement aussi.
Mathématiquement, ça sera compliqué, parce que là, c'est 12 points en 19 matchs. Hein, c'est quand même un sacré déficit de points. C'est la pire phase aller de l'histoire de l'Orient en Ligue 1.
Forcément, l'Orient sera dernier si l'Orient perd ses deux prochains matchs. Ah oui. Forcément. Et puis, le trou risque de se creuser avec les équipes qui seront juste devant et qui seront du coup beaucoup plus hautes. Et puis, moralement, psychologiquement, il faut gagner au moins un de ces deux matchs. L'idéal, là, ce serait déjà de gagner contre Dijon et de repasser 18e.
Après ces deux matchs-là, il y a Paris, je crois.
Il y a Paris dans la foulée, ultra important de gagner, mais notamment pour le côté comptable aussi, pour le mental. On y reviendra juste après un écran publicitaire.
Magazine des déchaînés du football, 19h45, on continue de parler de Lorient, qui aura besoin donc de gagner absolument au moins un de ses deux premiers matchs.
Exactement, un de ces deux prochains matchs contre Dijon et Nîmes, les deux, ce serait l'idéal pour revenir, parce que même avec deux victoires d'ailleurs, Lorient sera toujours en déficit de points, parce qu'avec deux victoires ça ferait 18 points.
Non, on parle du minimum,
matchs.
Gagner un de ces deux, c'est des deux
très,
prochains
très
matchs.
C'est un très grand minimum.
C'est,
ouais.
C'est le minimum, c'est... disons que c'est... S'il y a deux défaites,
ce sera très compliqué.
Ça remettrait fortement
en
jeu les chances.
Une victoire, une défaite, ce sera
compliqué, encore possible.
Ouais.
Mais il faut gagner au moins un de ces deux matchs-là. C'est le minimum qu'on demande au Merlu.
Ceci dit, dans le jeu, c'est vrai que c'est plutôt rassurant pour un 19e. On a vu ces derniers temps parfois des 19e ou derniers à la rue. C'était le cas de Toulouse l'année dernière.
Non, c'est pas le cas. Là
c'est pas le cas.
C'est
pas
les
le cas,
résultats qui manquent.
Il manque ces points. Alors comment aller chercher ce maintien? Eh bien, Mathieu Dreyer, qui joue le maintien lui depuis plusieurs années, presque tout au long de sa carrière, explique que c'est sans doute au mental que ça pourrait se jouer.
Il y a beaucoup de points à prendre, donc c'est surtout dans les têtes que ça va jouer le maintien. De toute façon, ça fait 10 ans que je le joue. Ça fait 10 ans que je me rends compte que c'est dans les têtes que ça joue. C'est pas forcément les qualités footballistiques. Mais c'est les gens qui seront capables de garder un groupe soudé, de garder un état d'esprit de conquérant et de rien lâcher jusqu'au bout. Et chose à la quoi je suis persuadé qu'on va y arriver jusqu'au bout et que personne ne lâchera, parce que je sens dans le groupe qu'il y a vraiment la possibilité d'aller chercher ce maintien tous ensemble et jusqu'à la dernière journée.
Ah, parce qu'il manque pas grand chose.
Non, il manque pas grand chose dans le. On sent que ça peut basculer sur certains matchs. On l'a vu à Nice, on l'a vu contre Bordeaux aussi, là, et sur d'autres rencontres encore. Ce qui manque peut-être, Pierre, c'est le manque, entre guillemets, d'expérience du maintien. Il y a très peu de joueurs, il y a Dreyer, mais il y a très peu de joueurs dans cette équipe qui ont été habitués à jouer le maintien dans leur carrière.
Bah déjà, il y a très peu de joueurs qui sont vraiment aguerris à la Ligue 1. J'en pense à deux, c'est Lemoine et Morel, qui ont joué. Morel a joué à Rennes, Lyon, Marseille.
peut-être pas forcément les meilleurs exemples pour jouer le maintien, même s'il a joué à Lorient au début de sa carrière. Oui, oui. Lemoine a joué à Saint-Etienne et Rennes, qui n'était pas franchement non plus habitué à la lutte pour le maintien. J'en oublie peut-être. Hein. Je crois que Boigard l'année dernière a joué le maintien avec Toulouse. Mais oui, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, enfin qui ne s'improvise pas. Il faut vraiment être prêt dans la tête à lutter, à aller au mental, au charbon, à pas faire beau, à faire efficace, à être solide. Et oui, on n'arrive pas à voir. Déjà, Lorient devait se mettre au niveau de la Ligue 1. Est-ce qu'aujourd'hui, après 19 matchs, Lorient est au niveau de la Ligue 1? Il y a toujours des points d'interrogation. Pour moi, c'est ni oui ni non. Sur certains matchs, ils ont été complètement à côté. Je repense au 4-0 à Lille. Ouais. Ça aurait pu faire 8. Sur certains, ils ont été au niveau. Mais voilà, il faut vraiment se mettre là, vraiment, où on a envie qu'il y ait une seule petite certitude, en tout cas quelque chose de positif cette saison, ça a été les confrontations directes. Ils les ont toujours bien abordées et là, c'est ce qui fait naître l'espoir sur ces deux matchs-là. Ouais. Si ça se passe bien, tout ira mieux.
Ouais.
Il faut les points.
Il y a encore de l'espoir dans cette équipe de Lorient.
Oui, ah, voilà.
Et puis on va être fixé du coup avec ces deux prochains matchs.
Oui, et puis c'est vrai que maintenant, depuis quelques saisons, cette 18e place, c'est une place de barragiste. Donc ce n'est pas non plus
foutu
quand on est dans cette position-là. Ouais. Il n'y a que deux points d'écart avec cette place de barragiste. Et avant de voir plus haut, on va déjà se concentrer évidemment sur ces deux matchs-là contre Dijon et Nîmes.
Ce qu'il faut faire, c'est une série. Hein.
Alors Dijon, ce sera dimanche. Dimanche prochain, match à 15h et Nîmes, ce sera le dimanche suivant, dimanche 24.
Exactement.
Ouais. Voilà, deux matchs à vivre en direct sur Radio
contre
Bonheur.
Des Nîmois qui ne sont pas bizarres du tout non plus ces derniers temps.
Oui. Je crois que c'est encore pire.
Il y a deux nouveaux adjoints qui viennent de rejoindre Jérôme Arpinon, un juste avant Noël, et puis Pascal Planck, l'ancien entraîneur de Niort, de Boulogne aussi notamment, qui est arrivé au début janvier. Il y a deux nouveaux adjoints là, qui viennent de l'épauler. Drôle de situation, un petit peu, de voir deux personnes débarquer comme ça dans une équipe, en tout cas, qui est en grande difficulté aussi, qui a perdu seulement 1-0, c'est vrai, contre Lille, mais qui a perdu quand même.
Qui se prenait des cartons aussi derrière moi.
Oui, il y a eu 5-0 à Strasbourg en milieu de semaine dernière, notamment très difficile ce passage pour les Nîmois, lanterne rouge de ce classement de Ligue 1. Je crois qu'il y a un petit écran publicitaire et puis on reviendra ensuite, on basculera en tout cas sur le championnat de national avec l'US Concarneau, parce qu'il y a un derby qui arrive vendredi entre Saint-Brieuc et Concarneau. À tout de suite.
Mercedes-Benz. Entrez, prenez place, vous avez 4 heures.
Bonjour, installez-vous, je vous prie. Ouvrez la bouche. Et si vous preniez plutôt place à bord d'une Mercedes? Surtout en ce moment, pendant les Star Days. Là, installé confortablement, découvrez le meilleur de la technologie Mercedes-Benz et profitez de conditions exclusives sur de nombreux modèles en stock. Prenez place, les offres Star Days sont là. Rendez-vous chez votre distributeur avant le 30 janvier, conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée.
Chez Cuisine Plus, on ne fait rien comme les autres. Et on le fait toute l'année. Avec Electrio, Cuisine Plus vous offre 3 électros pour 1 euro de plus. Toute l'année. Cuisine Plus, sortez des standards. À partir de 4500 euros d'achat de meubles jusqu'au 31 décembre 2021. Voir sélection et conditions en magasin et sur cuisineplus.fr.
Ah, les conditions. Quand petit, vous pouviez aller jouer à condition de ranger votre chambre. Quand on vous disait qu'on réussit dans la vie à condition de bien travailler à l'école. Ou encore quand une offre incroyable est valable à condition de lire les mentions légales. Là, en tout petit. Non, en fait, les conditions, c'est mieux quand il n'y en a pas.
Chez Nissan, oubliez les conditions. En janvier, pendant le mois sans condition, tout le monde peut profiter d'offres exceptionnelles, sans apport et sans aucune condition. Rendez-vous vite en concession.
Nissan.
Offre valable sur véhicules particuliers neufs. Détail nissan.fr.
Tu connais un réseau de serrurerie agréé, des portes blindées à prix léger?
Pour un fort fichier, bien sûr.
Et pour bien démarrer l'année, la TVA est offerte du 12 au 30 janvier sur toutes les portes blindées d'appartements et de maisons.
Voir conditions en magasin et sur fichier-pointfort.com.
Point Fort Fichier, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Alors, vos bonnes résolutions pour 2021?
Moi, je me suis remise à la lecture.
Bravo, moi j'ai repris la natation.
Ah, c'est ça que t'as...
Ouais, et moi la cuisine.
Ah,
c'est bien. Et ben moi, j'ai repris le sport. Je me suis même mise au golf.
Une Golf, excellent choix. Ou alors une Polo. Non, ou un T-Roc.
Qu'est-ce qu'il fait?
Qu'est-ce qu'il a, Jean, là?
Je ne sais pas.
En ce moment, chez Volkswagen, pour l'achat d'une Golf, d'une Polo, d'un T-Cross ou d'un T-Roc neuf, bénéficiez d'une offre pouvant aller jusqu'à 3500 euros selon le modèle, en plus de la reprise de votre véhicule. Voir conditions de l'offre et de la reprise sur Volkswagen.fr.
Le retour du Trophée des Champions sur Canal+, c'est déjà une bonne nouvelle pour 2021. Retrouvez le classique du football français avec le Paris SG face à l'OM pour le premier trophée de l'année. Le Trophée des Champions Paris SG-OM, c'est le 13 janvier à 21h en direct sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Sur Amazon,
des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Sur une barque.
C'est un super prix.
Lors d'une partie de pêche en mer.
C'est un super prix. Oh oh, ça mord.
Ou même dans le ventre d'une baleine.
C'est vraiment un super prix.
Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez.
Dites donc, Franck Ferrand, j'ai vu qu'Akena vous a séduit avec ses pergolas. Encore une fois, vous faites comme moi, donc.
Mais non, Chantal, non, c'est simplement que chez Akena, il y a du choix. Vous ne connaissez pas leur large gamme, ça me déçoit de vous. Bioclimatique, toit ouvrant, lames orientables, ouverture intégrale.
Ouais, si, je les connais. Pff, je les ai toutes vues sur akenapergola.com. Dites donc, c'est qui se prend la grosse tête, non, j'ai l'impression. Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Leclerc.
Bah dis donc, comment tu fais tes courses, toi? C'est bien empilé, c'est carré, mathématique.
Ah, je suis juste organisée.
Bien sûr. Et tu prends des yaourts par pack de 16?
C'est plus économique. Là, du 12 au 23 janvier, le pack d'Activia de Danone de 16 x 125 grammes, variété au choix, est à 4,09 euros. Avec 34% de tickets Leclerc, ça fait 2,05 euros le kilo.
Ah oui, mathématique.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Chez Poltron et Sofa, quand il s'agit des prix bas, on n'a pas froid aux yeux. Même en hiver. La preuve, avec l'opération coup de froid sur les prix. Jusqu'à samedi, tous nos canapés faits main en Italie sont à moins 50%. Alors, rendez-vous vite en magasin. Poltron et Sofa, Authentica Qualità. Et voilà, qualité authentique, vérifiez conditions en magasin.
Les moteurs e-tech hybrides sont nés chez Renault grâce à notre expertise en F1. Ils équipent aujourd'hui nos voitures à vivre comme Renault Clio Hybride. Venez la découvrir à partir de 199 euros par mois avec EasyPack pendant le rendez-vous e-tech hybride et électrique du 14 au 18 janvier. Pour Clio Zen e-tech 140 LLD 49 mois 40 000 km, premier loyer de 2800 euros. Offre sous condition de reprise, entretien garanti et assistance inclus pendant 4 ans. Jusqu'au 31 janvier, si accordiaque, voir Renault.fr.
Les déchaînés du football en direct sur Radio Bonheur, 19h54 minutes. Avant de parler, après les infos de 20h, avant de parler de l'en avant Guingamp, on parle du championnat de national de la 3ème division avec Saint-Brieuc et Concarneau.
Oui, avec déjà l'US Concarneau qui s'est incliné contre Orléans vendredi soir malgré l'ouverture du score de Thibaut Sainquin sur pénalty à la 12e minute. Saint-Ruf, Lambèze et Talal ont offert la victoire aux Orléanais. Puis de leur côté, les Briochins ont perdu 1-0 à Villefranche. Un but de Garita à la 3e. Saint-Brieuc et Concarneau, ce sont les deux équipes qui s'affronteront lors du derby breton vendredi au stade Fred Aubert à 18h. Pour parler
à Saint-Brieuc, pour parler de
ce match et puis revenir aussi sur ce qu'il s'est passé ce week-end avec nous, Thibaut Sainquin, le milieu de terrain qui est parfois défenseur à l'US Concarneau. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Alors cette défaite contre Orléans où vous aviez d'ailleurs ouvert le score, Thibaut, tout avait pourtant bien commencé dans ce match. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que ça bascule ensuite en faveur des Orléanais?
Ouais, comme vous avez dit, on a bien commencé ce match, on l'a pris par le bon bout, on a quand même 4-5 occasions où on peut faire les 2-0 voire 3-0. Derrière, on ne les met pas et puis sur un coup de pied arrêté où on fait une très grosse erreur de marquage, ils arrivent à égaliser alors qu'ils n'avaient pas grand chose en première mi-temps. Après on rentre au vestiaire, donc un petit peu déçu, et puis derrière sur la deuxième mi-temps on s'est entre guillemets éteint. On a juste un face-à-face qu'on met pas, mais derrière Orléans a fait une meilleure deuxième mi-temps que nous.
Alors c'était le dernier match de la phase aller qui s'est terminé donc au mois de janvier. À mi-parcours, Concarneau est 9e avec 23 points, soit 4 de plus que le premier relégable, 6 de moins que le deuxième. Quel bilan, Thibaut, faire de cette phase aller de l'US Concarneau?
On va dire que c'est bien, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Je pense que les points qu'on a, les 23 points qu'on a, je pense qu'on on les a mérités, mais je pense qu'il y a des matchs où il faut qu'on la joue un petit peu mieux. Je pense à Bourg-en-Bresse où on prend un but à dernière minute, et on a deux ou trois matchs comme ça où on prend des buts à dernière minute. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, faire davantage. Maintenant, il y a une deuxième partie de saison, ça va être un autre championnat. Et puis il va falloir prendre les points assez vite parce que derrière ça commence à remonter, parce que tous ceux qui étaient derrière entre guillemets mal classés ont gagné ce week-end, donc il va pas falloir traîner.
Et justement, Concarneau qui l'année dernière était plus dans le bas du panier, c'est même ces dernières saisons qui étaient un petit peu à jouer le maintien, hein, clairement. Là, il y a peut-être des ambitions, alors peut-être pas de monter, mais en tout cas de s'installer un peu plus haut. Que peut espérer Concarneau sur cette deuxième partie de saison finalement?
Ouais, à part la première partie de saison qu'on avait fait, juste quand on était monté, on était arrivé champion d'automne, voire même on était en mars encore, je crois, dans les trois premiers. Sinon, le reste des saisons, on a joué que le maintien, voire les maintiens à la dernière journée. C'est déjà ce qu'il faut ne pas faire cette année. On a un groupe très intéressant cette année. On a un nombre de points qui est assez conséquent, mais il en faudra quand même. Je pense que la barre des 40 points, ce sera le maintien. Mais il va falloir les prendre assez vite pour pas essayer de se maintenir à la dernière journée et puis encore avoir peur sur ces fins de match de saison, quoi.
Alors justement, le prochain match, en tout cas le premier de la phase retour, c'est un derby à Saint-Brieuc, vendredi soir. Est-ce qu'un derby, justement, c'est la parfaite occasion de se relancer?
Ouais, bah, toutes les occasions sont bonnes. Maintenant, c'est une notion de derby, mais bon, c'est une saveur de derby, mais sans le public, c'est pas la même chose non plus. Nous, on a eu la chance au match aller d'avoir le public. On sentait qu'il y avait quand même quelque chose autour de ce match. Là, les deux équipes qui plus est ont perdu le week-end dernier. Donc, je pense que les deux équipes auront à cœur de faire un bon résultat. Nous, on sera à l'extérieur. Il va falloir prendre les points, peut-être qu'on n'a pas su prendre contre Orléans, donc il va falloir aller là-bas conquérant.
Justement, le match aller qui s'était terminé par un 0-0 hein, au stade Guy Périoux, c'était la deuxième journée de ce championnat. Il y a beaucoup d'anciens concarnois à Saint-Brieuc, Valentin Lavigne, Devon Romil, Maël Lilien. Est-ce que ça aide à préparer un match quand on connaît comme ça plusieurs éléments clés de l'équipe adverse?
Non, pas forcément, parce qu'après il y a des joueurs aussi qu'on connaît aussi un petit peu. Il y a Kerbrat. Après, il y a des gens, les frères Allé qu'on connaît, Zana qui était chez nous aussi, Charlie devant. On connaît pas mal de monde. Je pense qu'eux aussi nous connaissent très bien. Maintenant aussi il y a la vidéo, donc forcément on connaît les joueurs pas forcément par cœur, mais on connaît les équipes, comment elles jouent. Saint-Brieuc est une équipe joueuse, donc il va falloir faire un match très très costaud là-bas.
Et du coup, Thibaut, est-ce que avec toutes ces connaissances dans le camp d'en face, vous allez un petit peu vous allumer, vous chambrer par message cette semaine?
Non, on est des garçons très très gentils. Après, on sait pas forcément beaucoup au téléphone non plus. Donc après on va se voir là-bas, ça va être un petit chambrage, mais ça va être vraiment très 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 très, très calme et tranquille.
Sans supporters donc dans ce derby, évidemment, en raison de la crise sanitaire. Ben, merci beaucoup Thibaut Cinquin d'avoir pris de votre temps pour être avec nous ce soir sur Radio Bonheur.
Merci encore.
Merci à vous.
Merci.
À vous.
Merci. Bonsoir.
Radio Bonheur, il est 20h et quelques bretelles, retour des déchaînés du football. Dans un instant après les infos, notamment, à tout de suite.
Bonsoir à tous. Jean Castex, le chef du gouvernement, a rappelé que la campagne vaccinale repose sur une stratégie au long cours, martelant qu'il n'y aurait pas d'effet immédiat de la vaccination sur la circulation du virus. Nous ne devons donc pas perdre de vue la stratégie tester, alerter, protéger et le respect des gestes barrières. C'est ce qu'il a aussi déclaré, assurant également qu'il ne saurait y avoir d'obstacle financier à l'acquisition de vaccins. Seulement les considérations sanitaires s'imposent. Le Premier ministre a également insisté sur les performances du système de tests en France. Selon lui, la situation sanitaire est encore préoccupante, mais l'une des moins dégradées en Europe grâce à la responsabilité des Français. Après Marseille, Tours et encore Bagneux, c'est maintenant à Lille que des contaminations aux variants britanniques du coronavirus du nom de VOC 2020-12-01 ont été détectées. Deux cas ont été confirmés ce dimanche après le retour de résultats de dépistage effectués à la fin du mois de décembre par un recours au séquençage. C'est ce qu'a annoncé l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France ce lundi lors du lancement de la campagne de tests organisée à Roubaix, dont l'un des objectifs est de faire le point sur la présence de ce variant. À l'étranger, à moins de 10 jours de l'investiture de Joe Biden, la procédure de tentative de destitution de Donald Trump démarre. Aux États-Unis, ce lundi après-midi, le camp démocrate de la Chambre des représentants, une des deux chambres parlementaires des États-Unis, a déposé sa résolution d'impeachment du président après les violences survenues au Capitole mercredi dernier. La rédaction de cette résolution a été lancée par deux élus démocrates en pleine invasion du Capitole par des militants pro-Trump contestant les résultats de l'élection de Joe Biden, selon CNN. Le ministère des Sports a envoyé ce lundi un courrier à la Ligue nationale de rugby pour demander officiellement au club français de ne pas participer aux deux prochaines journées de Coupe d'Europe, la Champions Cup et le Challenge européen, en raison du contexte sanitaire. Le gouvernement souhaite en effet prioritairement lutter contre tous les risques d'introduction du variant britannique de la Covid-19 et sa circulation sur le territoire national. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Allez, le magazine des déchaînés du football jusqu'à 20h30. On parle maintenant de l'en avant Guingamp. Et exceptionnellement, ce n'était pas arrivé depuis un trimestre, Guingamp a gagné.
On aurait pu mettre une musique spéciale, non?
Je vais la savourer, la prime de victoire.
Ouais. Et en plus, Guingamp gagne en
vous
mettant...
Vous en avez, vous?
Ah oui.
Guingamp a gagné en mettant 3 buts. Bon, victoire 3-2. Même si les deux buts de Châteauroux en fin de match, dans les dernières minutes, ont un peu gâché la fête. Mais bon, hein, il faut pas oublier quand même l'essentiel. C'était une victoire. Oui. Après 11 matchs sans victoire, ça y est. Guingamp gagne enfin.
Guingamp qui n'avait plus, on le disait, marqué 3 buts dans un même match depuis le déplacement à Châteauroux l'année dernière. C'était déjà lors de la 19e journée, ça
juste
fait donc
un an. Juste un an.
Que Guingamp n'avait plus.
Plus d'un an même, parce que c'était en décembre.
Plus d'un an en termes de date, mais en termes de calendrier foot, 19e journée pour 19e journée, quoi.
Ça voilà.
Fait un an.
C'est vrai.
Une saison,
un an,
on va dire.
Voilà, une saison.
Hors Covid.
Hors Covid, c'est vrai. Dans cette partie où Guingamp s'est fait peur. Effectivement, fin de match, on réécoute tout de suite en musique ce Châteauroux-Guingamp. C'était vendredi soir.
Oui, non, j'ai pas le résumé moi du match entre Châteauroux et Guingamp.
Vous voyez,
on va peut-être le retrouver alors.
Nos serveurs sont tellement peu habitués.
C'est ça.
Ah oui, bah, c'est sans doute pour ça. Bon.
En tout cas, bah, en attendant, peut-être qu'on le retrouve, on va voir. Mais c'est vrai que Guingamp s'est offert un bon bol d'air parce que cette victoire, elle était impérative.
Voilà, ça y est.
Eh bien,
allons-y alors.
Le résumé du match entre. Ah non, mais c'est exceptionnel que Guingamp gagne.
Bah, c'est ça.
Faut dépoussiérer l'ordi. Ouais.
Le rythme commence à monter crescendo dans ce match. La frappe de Rodelin à 30 mètres. Oh, elle passe à côté, elle était pas loin celle-là de Ronny Rodelin, en tout cas vu d'ici. C'est parti pour le pied droit de Moulumba. Deuxième poteau, c'est capté sans souci par Basilio, impeccable, et qui va dégager loin devant immédiatement vers Yannick Bakoto. Le dégagement est excellent et peut-être une passe décisive pour Bakoto qui va frapper l'arrêt. L'arrêt de Fabry, mais quelle balle de Basilio qui en un dégagement a trouvé Yannick Bakoto qui s'est présenté seul face à Fabry, et le ballon détourné par le portier Castelroussin. Deuxième énorme occasion. Sur la perte de balle, la dégagant pas dans la surface, la frappe ensuite de Nouri qui va passer au-dessus du but de Basilio. Il s'est peut-être un peu précipité, Amir Nouri. C'est parti, c'est capté, non, c'est repoussé par Fabry en corner. C'était puissant et placé ce coup franc de Yannick Bakoto, détourné donc en corner. Ou encore la déviation lune de Bakoto, servi en lune lui aussi avec Rodelin, la frappe ensuite de Bakoto au-dessus. Quoi Verratti sur le côté gauche, centre de Poitiers, il y a du monde au deuxième, avec Mbakoto encore, Pierrot maintenant, non, c'est renvoyé, la frappe de Rodelin, but ! Ronny Rodelin qui ouvre le score ! Ronny Rodelin qui ouvre le score sous la joie du président guingampin Fred Legrand, qui est juste à côté de nous et là, qui s'est levé pour applaudir Ronny Rodelin, il avait inscrit 3 buts ici, la saison passée, il ouvre le score cette fois pour Guingamp, qui mène à 0 à Châteauroux. Avec Poitiers maintenant, le centre de Poitiers vers Pierrot, but ! But de Pierrot ! Déjà buteur contre Amiens cette semaine ! Deuxième but de la semaine donc pour Franz Di Pierrot qui double la mise et Guingamp qui se met peut-être à l'abri dans cette rencontre 2-0. Pas de hors-jeu pour Pierrot dans la surface de réparation, Mbonnet est là, le centre vers Mbakoto 3-0 ! Ça tourne à la démonstration pour Olavant sur la pelouse de Gaston Petit. Il avait manqué un face-à-face tout à l'heure, mais cette fois, il vient tripler la mise. Yannick Bakoto et Guingamp mène 3-0 à Châteauroux. Ali Moulumba, pied droit pour frapper ce coup franc. C'est parti, c'est but. C'est but Châteauroux qui revient à 3-1 dans ce match. Basilio n'a pas bougé. Le mur a été contourné et Châteauroux revient à 3-1.
Amiens mène à Niort sur ce même score.
La frappe de Châteauroux qui revient à 3-2. Oh, la frappe de Péris surpuissante à 25 mètres qui file dans la lucarne d'Enzo Basilio. Châteauroux qui relance totalement le match. Guingamp qui avait pourtant la partie en main avec ce 3-0 il y a de cela 3 minutes et qui maintenant voit Châteauroux revenir à 3-2. Attention Guingamp à ne pas retomber dans ses travers. Guingamp met enfin un terme à sa série de matchs sans victoire. 11 matchs plus tard, Guingamp retrouve le succès dans la douleur. Oui, mais Guingamp retrouve les 3 points et s'impose 3-2 à Châteauroux.
Ben on est preneur quand même, hein, on voit que cette équipe de Guingamp, même en menant 3-0 à l'extérieur à un quart d'heure de la fin, elle est encore capable de nous faire peur.
Ça ne nous rassure pas,
même si l'essentiel a été fait, c'est-à-dire une victoire avec 3 buts, ça aussi c'est bien, et 3 buteurs différents. Pour une fois, on n'a pas manqué de fusil à Guingamp.
Exactement, on n'a pas manqué de fusil à Guingamp, ça, c'est l'expression du soir, je crois. Oui. Et surtout, alors on va revenir après avec les réactions de Bazdarevic et de Baptiste Roux, hein, qui sont venus en conférence de presse, mais sur les 2 buts encaissés, parce qu'on s'est fait peur avec ça évidemment à la fin du côté de Guingamp, il y a 2 choses. Il y a le coup franc de Moulumba où le mur n'est pas bien placé, et puis il y a ce 2e but qui vient de nulle part. Ouais. Et ça arrive très souvent contre Guingamp, c'était déjà le cas contre Amiens en milieu de semaine dernière.
Oui, le but d'Alphonse avec Amiens à 85e minute, donc assez tard aussi dans le match. Guingamp n'a pas concédé beaucoup d'occasions sur les 2 derniers matchs contre Amiens et contre Châteauroux. Après, il y a une grave erreur quand même sur le coup franc, oui. Vous en parliez. Basilio, je pense qu'il doit savoir aujourd'hui, hein, que c'est une erreur. C'est vrai qu'à vitesse réelle au stade, je compatis avec vous Gaëtan, je suis pas sûr que vu la position que vous aviez au stade, vous en êtes rendu compte, mais quand on regardait à la télé...
Effectivement, quand je l'ai vu à l'écran après, je dis ah oui, effectivement, c'était vraiment décalé, ça choquait presque les yeux, c'était bizarre. Ouais. Alors qu'au stade, ça donnait pas cette impression-là, en tout cas d'où j'étais placé. Mais ça, en revoyant les images ensuite à la télé, effectivement, j'ai eu ce même sentiment.
Ouais. Expliquer aux auditeurs, quand vous avez un coup franc, le gardien donc met un mur devant le but, le gardien se met d'un côté du but, la Basilio était à droite, et le mur est censé protéger l'autre côté, le côté gauche. Le problème, c'est que là, Basilio n'avait pas franchement aligné son mur avec le premier poteau. Du coup, Moulumba avait une sorte de boulevard sur le côté pour... Parce que franchement, ce coup franc, il n'est pas extraordinaire. Il rentre au milieu du but. Juste qu'il avait la place. Je pense que pendant 15 secondes, Moulumba s'est dit pourvu qu'il ne se rende pas compte du placement du mur. Et il l'a bien mise, bien sûr. Bah, il fallait la mettre là quand même. Il fallait cadrer. Mais ce n'était pas non plus...
Lui, il a bien vu, hein, parce qu'il était dans le bon axe. Lui, il a bien vu qu'il y avait un trou et que ça passait.
Ça a été vu. hein, ils savent que c'est une erreur à Guingamp. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, je l'ai appris, qui est rarement travaillé en pro. En fait, c'est quelque chose qu'on apprend en formation. Mais normalement, c'est une sorte d'acquis. Bon, bah, parfois, voilà, ça peut arriver une fois. Si ça arrive deux, trois fois, là, bon. Surtout que Basilio, c'est quand même.
Là, il va se taper sur les doigts.
Non, mais bon, surtout que Basilio faisait un bon match. Hein, il aurait pu être passeur décisif pour Mbakoto aussi.
Superbe dégagement.
En première période. Donc, voilà, il y a eu ces deux buts. Mais alors, moi, je vais peut-être prendre le contre-pied de tout le monde. Parce que je pense que ça aurait peut-être été contre-productif de gagner ce match 3-0. Je prends un simple exemple, la saison de la descente en National 2009-2010. Guingamp fait un début de saison, allez, moyen. Il y a une grosse défaite contre Hambourg en Coupe de la Ligue 5-1. Et trois jours après, Guingamp explose Vannes 4-1. Un match assez trompeur. Et après ce match-là, Guingamp met 10 matchs à regagner en championnat, je pense. Et beaucoup avaient dit à ce moment-là, on s'était vu trop beau. Je pense que si la Guingamp gagne 3-0 ce Châteauroux en avant,
enfin, en même temps,
c'est trop beau.
Il y a quand même, sur la dernière occasion des Guingampais, il y a quand même presque une faute professionnelle. On se retrouve à 6 contre 2.
Je pense que Niakate, c'est un défenseur central.
Il n'y a plus de gardien. Je veux dire.
Je pense que Niakate n'a pas voulu prendre le risque de rater sa frappe. Je pense qu'il a, voilà, il a voulu faire le décalage. Ouais, oui, c'est
dans la mesure seul, où Guingamp a un but d'avance, bon, c'est un moindre mal. C'est vrai qu'à 2-2, cette action-là se termine ainsi.
Ouais, mais enfin, ça ne donne pas confiance encore. On voit que Guingamp prend deux buts dans le dernier quart d'heure, qu'ils ont une occasion comme on peut difficilement avoir dans un match.
Un attaquant aurait frappé. Voilà, là, c'est un défenseur central. Je pense qu'il n'a pas osé, peur de, effectivement, comme dit Pierre, de tourner au ridicule.
Je crois que ça a été dit que Pierrot était hors-jeu sur la passe. C'est
mais
pas sûr.
Pas, hein. C'est pas sûr. C'est pas, quand on revoit l'alignement là, qui est passé un peu sur les réseaux
sociaux. Avec le ballon,
sociaux,
parce qu'il n'y a qu'un seul, un seul défenseur.
Ouais, ouais. Pas certain, effectivement, qu'il y ait de.
En tout cas, moi, je ne suis pas forcément rassuré de cette victoire. J'espère que les Guingampais non plus. Parce que c'est deux buts encaissés, ce but loupé en fin de match. On joue contre Nancy, hein, le prochain match. Oui, on a parlé de Lorient tout à l'heure, match décisif contre Dijon. Mais il y a aussi, pour moi, un match décisif à domicile, là, contre Nancy, qui vient le week-end prochain, samedi prochain, match à 19h en direct sur Radio Bonheur. Si Nancy gagne, on retombe dans les mêmes travers qu'avant ce match.
Façon, après, même une victoire 5-0 à Châteauroux n'aurait pas non plus été totalement rassurante. Parce que une victoire sur les 12 derniers matchs,
Châteauroux, c'est avec Pau, ça fait partie des deux équipes les plus faibles qu'on ait vues dans ce championnat.
Châteauroux, c'était bien faible.
C'était très faible.
Et honnêtement, juste avant de repasser à la réaction de Bazdarević, je ne pouvais pas sortir d'une série de 11 matchs et 3 mois sans gagner sans être guéri.
Ça va prendre du temps.
Il y a quand même des signaux positifs qui sont envoyés depuis depuis cette semaine. Il y a eu deux matchs assez corrects de Guingamp.
La victoire, c'est quand même important.
La victoire, même le match d'Amiens qui était la première période était bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu une comme ça. Voilà, elle va se remettre. Vous guérissez pas, je sais pas moi, d'une maladie du jour au lendemain. Ça va prendre un petit peu de temps et voilà, il faut que Guingamp se remette. Et
on est sur un Covid long, mes enfants.
Peut-être.
En tout cas, à défaut de rassurer, elle soulage cette victoire. Mecha Bazdarević, oui, mais aussi ses joueurs. L'entraîneur, d'ailleurs, revient sur ce sentiment de soulagement après la victoire à Châteauroux.
C'est vraiment une victoire qu'on attend depuis un moment. Et soulagement pour les joueurs. Je pense que on mérite beaucoup plus. On mérite parce qu'on a fait des bons matchs. On n'a pas eu de réussite. Voilà, quoi. Soulagement, mais après c'est surtout rester bien dans notre travail, de continuer de travailler et être encore plus performant, meilleur, insister, rajuster, voilà, justement reproduire les matchs contre Amiens, Châteauroux jusqu'au premier but et continuer à avancer.
Gaëtan, est-ce que Guingamp a joué plus juste?
Plus juste, sans doute, parce que pour mettre 3 buts, il faut être assez juste. C'est ce qu'ils ont fait, les Guingampais, en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il y a eu plusieurs balles pour ouvrir le score, le face-à-face de Mbakoto, un coup franc aussi de Mbakoto, bien repoussé cette fois par Fabry, plusieurs centres où parfois Fabry est passé au travers, plusieurs fois en première mi-temps, et parfois où il a fait l'arrêt décisif, l'intervention décisive, mais en deuxième, il y a eu cette justesse technique, et on a senti que dès que Guingamp accélérait un petit peu, cette équipe de Châteauroux partait vraiment.
Là, parce qu'il y avait 0-0 à la pause. Hein.
Oui, tout a été marqué en deuxième période.
5 buts en deuxième mi-temps.
Mais c'est là où on voit quand même le potentiel de cette équipe. Et c'est ça qui nous énervait au moment où elle ne marquait plus. Souvenez-vous, il y a eu 6 matchs sans marquer. 6 matchs
ou 4
ou 5 matchs. Non, c'est Lorient, 6 matchs. Non, mais il y a eu un gros moment sans marquer pour. Ouais, il y a eu un long moment sans marquer pour Guingamp.
Clermont, Caen, Sochaux. Il y a peut-être un autre match.
3 ou 4. Il y a eu. Ouais. Mais en tout cas, quand on voit un Poati qui, franchement, je trouve, représente le jour et la nuit par rapport à l'apport de Rebocho depuis que est revenu, la manière dont le premier but est marqué, où il y a deux contres, mais ça revient, il y a Rodelin qui arrive, qui marque, Rodelin qui a régalé en seconde période. Franchement,
qui était très bon.
C'est ce qu'on disait un peu ironiquement après le match. On espère qu'il va pas ressortir ce match-là en avril, parce que ce qu'on attend de Rodelin, c'est de la régularité.
C'est un peu trop sporadique, quoi. Voilà. Chez
et,
Rodelin,
ouais. Et là, ce qui symbolise, je trouve, à merveille la joustesse dont on parle.
Le 1-2.
C'est le 1-2 déjà très bon entre Rodelin et Bakoto. Mais moi, surtout, ce que je retiens, c'est le geste de Pierrot sur le deuxième but, parce que le centre de Poati, il est pas évident. Hein. Il est à mi-hauteur, il est obligé de s'élever, Pierrot. Et faut pas la prendre très forte, parce qu'elle arrive très forte déjà cette balle. Il met juste son pied en opposition, ça tape dessus et ça va dans le but. C'est ce que symbolise aussi le retour de Pierrot, qui soulage tout le monde autour de lui, ouais. Qui amène de la justesse dans les derniers gestes, parce que mine de rien, sur les deux derniers matchs, c'est deux buts et une passe. Déjà, exactement. Sa tête contre Amiens était un modèle du genre. Voilà, il fait beaucoup de bien.
Beaucoup d'espace aussi aux joueurs qui sont autour de lui. On parlait de Gomis, qui est beaucoup mieux depuis que Pierrot est revenu, en tout cas dans le jeu. Surtout sur la première mi-temps, ça a été moins le cas en deuxième à Châteauroux. On parle aussi de Yeling Bakoto, qui a beaucoup d'espace aussi. Rony Rodelin, là, qui était en plus bien meilleur en soutien. Donc, Franz De Pierrot, il libère beaucoup.
Vous savez, c'est un peu comme Giroud en équipe de France. Griezmann, Mbappé ne seraient pas aussi bons en équipe de France si vous n'aviez pas ce point-là de fixation. Et Pierrot, en plus de ses buts, j'ai revu le match après, la qualité des fois de ses contrôles poitrine pour se l'emmener, dévier et faire avancer toute l'équipe, franchement,
il a un niveau au-dessus. Hein,
ouais, mais c'est très étonnant équipe, d'ailleurs après. Alors des fois, c'est comme ça, sur un retour de longue blessure, vous avez un coup de boost incroyable et ensuite ça revient. On va attendre, on va être patient avec lui quand même.
On attend pour la confirmation, mais sur ce match-là, en tout cas, c'est vrai qu'il était un peu au-dessus du lot.
Et contre Amiens aussi.
Il revient fort. Ouais,
il fait partie des satisfactions, on l'a dit, comme Rodelin, comme Poati, comme Dembé aussi, qui a confirmé au poste de latéral droit après sa première apparition à ce poste-là contre Amiens la semaine dernière. Romao aussi qui a fait un bon match. Plusieurs
le travail
positifs.
De Romao est excellent sur le troisième but.
Exactement, aussi. Plusieurs signaux positifs qui font dire à Mecha Bazdarevic que c'est une victoire vraiment collective, à laquelle tout le monde a vraiment sa part du gâteau. On écoute l'entraîneur Guingampé.
Je pense qu'on était solide, on a bien construit, on a joué attaque placée, on a joué attaque rapide. Voilà, ça nous a réussi beaucoup de choses ce soir. Mais je pense que le retour de Renzi, ça, c'est pour quelque chose. Mais après, on a vu très très bon Rony, Rodelin, on a très bon Yeni qui était aussi. Voilà, je pense. Mais c'est un bon collectif ce soir. Je pense que on doit jouer comme ça.
Victoire collective.
Exactement, pour les Rouges et Noirs de Guingamp, qui, on l'a dit, ont tout marqué en deuxième mi-temps. Mais il y avait eu quand même pas mal d'occasions d'ouvrir le score en première.
Ouais, on a vu un Guingamp qui a agi. Hein,
exactement. Contre Amiens, deux buts marqués aussi en première mi-temps. Guingamp est beaucoup plus entreprenant depuis quelques temps dans ces matchs, alors qu'on avait le sentiment, pas sur la fin décembre peut-être, mais avant, que c'était une équipe toujours à réaction. On l'a répété ça pendant des semaines.
Guingamp qui a ouvert le score sur ses deux derniers matchs, et il ne l'avait fait aucune fois sur ses 11 matchs sans victoire. Il l'a fait que 3 fois cette saison, 4 fois ouvrir le score avant.
Il n'y a pas eu de but en première mi-temps.
Non, mais il y a eu des occasions, en tout cas.
Mais il y en a eu 3.
Oui, c'est pas forcément une obligation de marquer en première période.
Il y a eu des vraies occasions, c'est vrai, en première période.
Ce qui n'existait pas forcément à Chambly, évidemment, contre dans cette série-là, où il y avait eu à Clermont,
à Paris aussi au début. Bon, il y avait eu une occasion à 0-0 à Paris. Mais
il y avait quand même plusieurs matchs où Guingamp était à réaction, non seulement au niveau du score, mais aussi dans le jeu. Quoi. Il n'y avait pas cette emprise. Guingamp entreprenant, c'est ce qu'explique Baptiste Roux.
On sent que dans la maîtrise collective, il y a quand même plus de maîtrise. Devant, on pèse plus sur les défenses. On arrive à se créer des situations plus facilement, des choses qu'on n'arrivait pas forcément à faire au début de saison. Et voilà, il faut qu'on continue comme ça, à se projeter, à faire des courses, à mettre de l'intensité. Et c'est comme ça qu'on réussira.
Guingamp sur de bons rails, messieurs, après cette victoire.
Bah, c'est encore point d'interrogation, parce que finalement c'est qu'une victoire contre un dernier qui est vraiment aux abois, hein, Châteauroux. Je pense que ça va être très dur pour eux.
Alors, est-ce que c'est un accident cette victoire?
Accident, non, je pense pas, parce que c'est quand même dans la continuité de la défaite au PFC, mais qui avait été bien meilleure
dans la réaction au PFC.
Oui. Et après le carnage à Chambly, le match nul contre Amiens qui était bien meilleur aussi, surtout sur la première mi-temps, dans son contenu, dans la consistance qu'avait apporté affronter cette équipe. Et là encore contre Châteauroux. Mais c'est à relativiser, c'est vrai, parce que ce n'est qu'une victoire. Et en plus, contre les Castelroussins, bien mal en point.
Mais ce que je trouve intéressant dans cette équipe de Guingamp, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui sont en forme au même moment. On en parlait avec Mecha Bazarevic la veille en conférence de presse, la veille de ce match à Châteauroux. Il disait oui, il y a toujours eu. Alors des fois il y a Rodelin qui a fait un bon match, mais les autres autour il y avait personne. Des fois ça a été Gomis, mais autour il y avait personne. Là sur le match de mardi, il y a eu Poatine, Dembe, Pierrot, Ba notamment.
Oui, et puis surtout il y a aussi un fait inverse, c'est-à-dire qu'on voyait autrefois souvent, notamment au mois de novembre et même début décembre, des joueurs, plusieurs joueurs qui loupaient complètement leur match, qui étaient absents. Ouais. Et là, on n'a plus l'impression non plus que ça arrive, ou du moins beaucoup moins, ils sont moins nombreux. Les attitudes, voilà, l'envie de gagner justement, l'envie de prendre le match à leur compte. On voit que c'est toute une équipe et pas seulement 2-3 joueurs, comme on a l'impression que ça se passait dans le dernier trimestre.
C'est peut-être aussi le fruit du coup de gueule de Fred Peut-être. Legrand, la trêve, hein, le
président. On va voir si ça dure aussi, quoi.
On va voir si ça dure, mais c'est vrai qu'il y a eu une remise en place, on va dire, un petit peu. On a remis un petit peu peut-être l'église au centre du village. Alors ça reste encore.
Oui, il y a eu deux matchs.
Mais sur ces deux matchs-là, peut-être que les mots du président ont un petit peu pesé.
La confirmation, elle viendra avec le prochain match contre Nancy.
Avec tout le mois de janvier, parce qu'il y aura Nancy, il y aura après un déplacement au Havre qui n'est pas bien en ce moment, la réception de Pau. Voilà, on avait dit que ce mois de janvier allait être décisif pour l'avenir.
Il y a des matchs qui sont prenables, quoi, normalement.
Pour l'instant, il se passe plutôt pas mal. 4 points en 2 matchs, 2 matchs assez consistants. Pour l'instant, ça va. Mais le pour l'instant est toujours très important.
Et on y reviendra d'ailleurs après un petit écran publicitaire. A tout de suite.
Mercedes-Benz. Entrez, prenez place. Vous avez 4 heures.
Bonjour, installez-vous, je vous prie. Ouvrez la bouche. Et si vous preniez plutôt place à bord d'une Mercedes? Surtout en ce moment, pendant les Star Days. Là, installé confortablement, découvrez le meilleur de la technologie Mercedes-Benz et profitez de conditions exclusives sur de nombreux modèles en stock. Prenez place, les offres Star Days sont là. Rendez-vous chez votre distributeur avant le 30 janvier, conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée.
Ah oui, très bien ça. Oh, Zalando, j'adore. Oh, c'est trop mignon celui-là.
Qu'est-ce que tu fais, chérie?
Du shopping, pourquoi?
Dans la chambre.
Bah ouais.
Jusqu'à mardi minuit, téléchargez l'application Zalando pour profiter d'une réduction supplémentaire de moins 10% sur toutes les promotions. Et bénéficiez toujours du service Zalando. Essayez d'abord et payez après. Détails sur Zalando.fr.
Ah, les conditions. Quand petit, vous pouviez aller jouer à condition de ranger votre chambre. Quand on vous disait qu'on réussit dans la vie à condition de bien travailler à l'école. Ou encore quand une offre incroyable est valable à condition de lire les mentions légales. Là, en tout petit. Non, en fait, les conditions, c'est mieux quand il n'y en a pas.
Chez Nissan, oubliez les conditions. En janvier, pendant le mois sans condition, tout le monde peut profiter d'offres exceptionnelles, sans apport et sans aucune condition. Rendez-vous vite en concession.
Nissan.
Offre valable sur véhicules particuliers neufs. Détails nissan.fr.
Leclerc.
Tu cherches quoi?
Du café issu des meilleurs grains.
Issu des meilleurs grains?
Mais me regarde pas comme ça, c'est mon mec, c'est un intégriste du café, il exige issu des meilleurs grains.
Alors, du 12 au 23 janvier chez Leclerc, pour l'achat de 2 packs de 2 paquets de café moulu carte noire variété au choix, en 2 x 250 grammes, le troisième est offert, soit 7,45€ le kilo.
C'est issu des meilleurs grains?
Attends, je regarde... Ouais.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Chez Poltron et Sofa, quand il s'agit des prix bas, on n'a pas froid aux yeux. Même en hiver. La preuve, avec l'opération Coup de froid sur les prix. Jusqu'à samedi, tous nos canapés faits main en Italie sont à moins 50%. Alors, rendez-vous vite en magasin. Poltron et Sofa, Authentica Qualita. Et voilà, qualité authentique, vérifiez conditions en magasin.
Le retour du Trophée des Champions sur Canal+, c'est déjà une bonne nouvelle pour 2021. Retrouvez le classique du football français avec le Paris SG face à l'OM pour le premier trophée de l'année. Le Trophée des Champions Paris SG OM, c'est le 13 janvier à 21h en direct sur Canal+. Appelez vite le 3910, service gratuit plus prix appel.
Vous voyez, Franck Ferrand, je pense que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont la qualité et ceux qui ont le prix.
Mais non, Chantal, pas du tout. Chez Akena, ils ont le rapport qualité-prix. Pour leur pergola comme pour leur véranda, ils pensent à tous les budgets sans oublier la qualité.
Ah, ne me faites pas dire, je ne l'ai pas lu, Ferrand. Chez Akena, ils sont hors catégorie.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Chez Renault, c'est notre expertise en F1 qui nous a permis de créer les moteurs e-tech hybrides. Il a fallu des mécaniciens comme Alain, des ingénieurs comme Emma, des pilotes comme Fernando, un savoir-faire de passionné pour concevoir la technologie Renault E-Tech, aujourd'hui disponible sur notre gamme de voitures à vivre. Venez vite découvrir nos nouveaux modèles hybrides et électriques pendant le rendez-vous Renault E-Tech du 14 au 18 janvier et trouvez le vôtre grâce à nos concessionnaires comme Paul, Anne, Alex, Jean, Julia.
Vous ne rêvez pas, Guingamp a gagné ce week-end. C'était vendredi soir en direct sur Radio Bonheur. Alors, pour la peine, on en reparle encore pendant quelques minutes.
Oui, à 21h15, le magazine. Allez, c'est parti.
Jusqu'à 20h30.
Ah oui, avec donc cette victoire 3 buts à 2, malgré les deux buts encaissés en fin de rencontre. 77e, Rémi Moulumba. 79e, Christopher Opéry. On a cru à un dernier quart d'heure ou 10 grosses dernières minutes tremblantes. Finalement, il n'y a pas eu de grosse occasion de Châteauroux, mais on s'est fait un petit peu peur avec ces deux buts quand même du côté de Guingamp.
Oui, ce qui est très étonnant pour avoir revu le match après, c'est que Guingamp a été rarement en difficulté dans ce match, mais il l'a quasiment à chaque fois été après ses buts. Alors après le premier, je crois il y a un centre dangereux, c'est surtout après le deuxième où il y a deux frappes de Châteauroux, dont une qui je crois est détournée par Basilio en corner, une frappe de Chouareff, et puis après le troisième, ce relâchement de 3-4 minutes où il y a les deux buts. Mais c'est vrai que à froid, alors c'est vrai que ça aide de savoir le résultat et de se dire bon, on va vraiment regarder ce dernier quart d'heure pour voir si on a vraiment souffert ou c'est les frissons qui nous ont fait s'extasier négativement à chaque approche de Châteauroux. Il y a eu franchement un centre dangereux, ouais, devant le but dégagé par Sorbon, sinon il n'y a rien eu autour de la surface de Guingamp.
Non, ce qui est dommage, c'est ce flottement après ce troisième but, où là
c'est ce qui va guetter Guingamp pendant encore quelques matchs, quelques semaines. Tant que vous êtes là dans une spirale négative qui est peut-être en train de se retourner à la faveur de ce début du mois de janvier, vous n'êtes pas à l'abri de ça, donc il va vraiment falloir faire très attention et puis savoir se mettre à l'abri, ce que Guingamp a fait enfin à Châteauroux, parce que mener 3-0, déjà mener 2-0, c'était arrivé qu'une seule fois, c'était contre Auxerre, l'aviez noté lors du match Gaëtan, là 3-0, bon, ça a mis à l'abri d'une catastrophe qui n'était pas loin, mais qui n'est pas arrivée.
Heureusement qu'il y a eu ces trois buts.
Fébrilité ou relâchement, eh bien Mecha Bazdarevic, lui, a choisi.
Je pense relâchement surtout, parce qu'on a quand même contrôle des matchs, et puis on a commencé à jouer entre guillemets trop facilement. De rester bien concentré, bien costaud, solide, et essayer d'encore profiter peut-être, éventuellement de marquer, mais surtout de ne pas concéder d'occasion et de vivre cette un quart d'heure. Mon idée, c'était de garder tout le monde, de concentrer, de rester discipliné, entre guillemets, dans notre jeu et contrôler le match. Parce qu'à 3-0, je pense qu'on n'a pas besoin de tout ça.
Ça s'est vu du bord du terrain par l'entraîneur Mecha Bazdarevic, maintenant sur le terrain par Baptiste Roux. Comment lui a-t-il vécu cette fin de match?
Peut-être que ouais, instinctivement on se relâche un petit peu, on recule un petit peu, on prend un coup franc, un beau but aussi après. Donc voilà, je pense qu'on a nos fins de match à corriger dans l'ensemble. C'est un petit détail, mais voilà, nous on est très contents d'avoir gagné. Et il n'y a que ça qui compte aujourd'hui, même si on sait qu'il y a des choses à revoir, on les reverra à la vidéo et voilà, on ne se prend pas trop la tête avec ça ce soir, on apprécie les trois points.
Non, en même temps, les Guingampiens n'ont plus l'habitude de gérer plusieurs buts d'avance en fin de match.
Non, c'était plus arrivé depuis un petit bout de temps, depuis la victoire contre Auxerre, donc 2-0, puisque c'est la seule fois de la saison que Guingamp a mené avec deux buts d'avance.
C'était la dernière fois avant Amiens où ils avaient ouvert le score.
En plus, oui.
On les a vus être souvent menés, être assez régulièrement revenu, 5 fois je crois.
Oui, 5 fois.
En 11 matchs, donc c'est pas non plus insultant.
Enfin, pas 5 fois en tout cette saison. Ça compte aussi Nancy sur la deuxième journée.
Ah oui, 4 fois sur 11.
4 fois sur cette série-là.
Oui, il y avait eu des 0-0.
Puisqu'il y avait eu des 0-0, effectivement. Guingamp qui est donc 15e avec cette victoire.
Super.
20 points en 19 matchs à mi-parcours, donc qui se donne un petit peu d'air avec le bas de tableau, notamment sur les deux relégables. C'est un tout petit peu plus serré avec Rodez qui est 18e. Mais bon, on respire davantage. Du côté
à confirmer
contre le 17ème.
Eh oui, Nancy. Ça c'est hyper important. Match à vivre en direct sur Radio Bonheur samedi 16 à 19h. On n'oublie pas Brest-Rennes dimanche, juste après le 17 janvier à 13h. Et puis Lorient contre Dijon, on enchaînera à 15h pour la Ligue 1. Merci messieurs.
Merci.
Vous en prie.
Bonne soirée. Demain, on se retrouve à 8h40 pour la rubrique concernant Guingamp sur nos émetteurs Costar Morican. La rubrique également à 8h40 pour les Merlus, pour les Lorientais sur notre 93.3 à Lorient et sur le 95.9 pour la fréquence brestoise.
Petite info Mercato 2 à Guingamp, départ à venir sans doute de Gaëtan Robaille qui a été prêté il y a 3 mois et qui va sans doute revenir à Lens pour repartir à Valenciennes, et Pedro Rebocho devrait, il y a un accord de principe pour un prêt à Paços de Ferreira qui est un club de première division portugaise, donc retour au Portugal aussi pour Rebocho.
Bonne soirée à tous.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous écoutez Radio Bonheur à Saint-Brieuc sur 99.1, à Lorient sur 93.3, à Guingamp sur 90.1, à Lannion sur 99.0, à Châteaulin sur 104.0, à Carhaix sur 99.0, à Saint-Malo sur 96.7 et à Brest sur 95.9.